Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Dans leur périple vers l'Europe de l'Ouest, les réfugiés se retrouvent désormais bloqués au nord de la Serbie, à la frontière hongroise. Et là, ils sont très violemment repoussés par la police hongroise. C'est ce que rapportent plusieurs ONG, dont Amnesty International et Médecins Sans Frontières. Cet hiver, MSF a vu arriver presque tous les jours des victimes dans son centre médical de Belgrade. Malgré la clôture de barbelés, le risque de la prison, un petit filet de réfugiés continue à passer entre les mailles du filet hongrois. C'est un reportage de Florence Labruyère.
Nous sommes en Serbie, à 12 km de la frontière hongroise. Une cinquantaine de jeunes Pakistanais a trouvé refuge dans les bois. Zahar a 23 ans. Il veut rejoindre son frère en Italie. Il veut essayer encore une fois de franchir la clôture de barbelés à la frontière hongroise, malgré les risques.
I crossed the Hungarian fence border.
J'ai franchi la clôture à la frontière hongroise 15 fois, 20 fois peut-être. Les policiers nous ont attrapés, ils nous ont repoussés en Serbie et ils nous ont battus. Il y avait des chiens avec une muselière et d'autres sans. Les chiens nous ont mordus. Les policiers avaient des bâtons, ils nous ont fait très mal. Ils nous ont forcés à nous déshabiller. Ils nous ont pris en photo et ils riaient. Elle est très brutale, la police hongroise.
Un médecin qui travaille pour une ONG internationale et qui préfère parler sous couvert d'anonymat décrit ce qu'il a vu.
Notre équipe est du côté serbe. Les gens qui viennent nous consulter ont des bleus, des plaies ouvertes. Visiblement, ils ont reçu des coups et des blessures. Ils disent qu'ils ont été frappés.
Cela fait plusieurs mois que Lydia Gall, chercheuse à l'organisation des droits de l'homme, Human Rights Watch, enquête sur ces violences. Elle a rencontré une quarantaine de victimes.
J'ai vu beaucoup de gens avec de sales blessures, des plaies ouvertes à la tête, des bleus aux bras et aux jambes, des morsures de chien sur les bras, les mains et les jambes, et aussi des hématomes causés par des coups de matraque sur le dos et sur la tête.
Le comité Helsinki de Hongrie défend les droits des demandeurs d'asile. Gabor Gyulai, qui travaille pour cette ONG, confirme l'existence de ces violences.
Le comité Helsinki, qui est présent aussi sur le terrain et qui est aussi en contact avec plusieurs organisations, a la connaissance de plus de 500 cas de brutalité, soit rapportés par nos clients, soit rapportés par d'autres organismes. S'il y a ce phénomène pendant plusieurs mois, raconté pour plusieurs centaines de réfugiés indépendamment, toujours les mêmes histoires ou les histoires très pareilles, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas.
À Budapest, György Bakondi, conseiller du Premier ministre Viktor Orbán, réagit à ces accusations.
Des associations dont Médecins Sans Frontières, Amnesty International, le comité Helsinki prétendent que les migrants sont brutalisés à la frontière. Tout cela est totalement faux.
Pourtant, des plaintes ont été déposées devant la justice hongroise. Le conseiller de Viktor Orbán le reconnaît.
Effectivement, il y a eu une quarantaine de plaintes déposées. La justice hongroise a déjà condamné deux policiers à des amendes pour usage excessif de la force. L'un des policiers a aspergé de gaz lacrymogène un réfugié trop près du visage. L'autre a capturé un homme et lui a asséné un coup de genou à la tête. Donc oui, c'est vrai, il y a eu des affaires judiciaires, mais ces deux cas sont négligeables si on compare cela à la dizaine de milliers d'officiers qui remplissent honnêtement leur mission à la frontière depuis 2015 et respectent parfaitement la loi.
Les deux policiers condamnés auraient toutefois commis ces actes en plein jour. Rien à voir avec les expulsions violentes de Hongrie qui se déroulent la nuit. Cet hiver, qui a été particulièrement rude, les réfugiés ont été soumis à des traitements cruels, selon Lydia Gall.
Certains ont été forcés de se déshabiller. Les gardes frontières ont pris des bouteilles d'eau et leur ont versé de l'eau sur le corps avant de les refouler de l'autre côté de la frontière. Il faisait moins 20. C'est horrible. Ils risquaient la mort. Quand on interviewe les réfugiés, ils décrivent la couleur des uniformes, les insignes, le nombre d'agresseurs, les véhicules, les chiens. Je n'ai aucun doute. Dans la majorité des cas, il s'agit bien de la police hongroise.
D'après Human Rights Watch, le phénomène n'est pas nouveau. En Bulgarie, les réfugiés sont brutalisés par la police depuis plusieurs années. Mais en l'absence de réaction ou de sanctions européennes, d'autres polices suivent ce mauvais exemple.
En finir avec la tricherie sur les tests de pollution automobile. Les eurodéputés doivent se prononcer ce mardi sur les propositions de la commission d'enquête mise en place après le Dieselgate. Vous le savez, le constructeur automobile allemand Volkswagen a reconnu avoir truqué les tests d'émissions de pollution pour l'homologation de ses véhicules. 11 millions de voitures sont concernées. Christine Revault d'Allonne Bonnefoy est eurodéputée, rapporteure pour le groupe socialiste et démocrate de cette commission d'enquête. Je lui ai d'abord demandé si elle avait été surprise d'apprendre que d'autres constructeurs européens étaient eux aussi soupçonnés d'avoir triché sur les émissions de certains de leurs modèles.
Ça ne nous surprend pas parce qu'en réalité, il n'y avait pas de raison qu'un seul constructeur ait pratiqué des fraudes aux normes d'émissions de polluants. Et c'était pour ça qu'on voulait mettre en place la commission d'enquête, pour montrer que ça avait été le fait de tous les constructeurs. À partir du moment où ils ont un peu adapté la législation de 2007 qui disait qu'il fallait qu'ils respectent un certain nombre de normes d'émissions de polluants en conditions normales, et eux l'ont interprété, conditions normales, c'est le test en laboratoire. On s'est rendu compte qu'en conduite réelle, sur la route, la pollution avait rien à voir, le niveau de pollution, avec le laboratoire, parce qu'ils s'étaient focalisés là-dessus. Donc on a voulu démontrer que ça, c'était une interprétation qui n'était pas juste, et ça a été établi, tout le monde l'a considéré. On voulait aussi montrer que il y avait d'une part les constructeurs qui n'avaient pas joué le jeu, mais normalement la Commission européenne, elle a un rôle de faire appliquer, bien respecter cette législation. Donc elle non plus n'a pas joué le jeu, ce qu'on appelle la maladministration, et les États membres, parce que c'est eux qui sont en charge avec leurs autorités nationales de délivrer des homologations et éventuellement de demander le retrait des véhicules qui ne respectent pas les normes, n'ont pas joué le jeu non plus.
Aujourd'hui, quelles sont les préconisations donc, que vous mettez en avant et qui, vous l'espérez, seront validés par les députés ce mardi?
C'est la création d'une agence européenne de surveillance du marché européen. Puisqu'aujourd'hui, les autorités nationales n'ont pas forcément joué le jeu, parce qu'il faut bien voir que les constructeurs automobiles, généralement, sont très liés aux États. Les États, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie, sont partie prenante dans leurs gros constructeurs, et ils n'ont pas intérêt, finalement, à ce que le marché de l'automobile, ça se comprend, soit en perte de vitesse. Donc, le fait qu'ils aient partie liée, ils ne sont pas forcément très indépendant. Donc une agence européenne indépendante, elle pourrait regarder et établir un certain nombre de sanctions si jamais un constructeur venait à l'avenir à ne pas respecter les normes d'émission de polluants.
Quels seraient les pouvoirs de cette agence? Est-ce que ces décisions seraient contraignantes pour les États?
Oui, c'est tout l'intérêt de cette agence, c'est qu'elle serait contraignante. Dès lors qu'elle émettrait des sanctions, elle devrait être appliquée automatiquement. Par exemple, un constructeur demande une homologation pour un nouveau véhicule qu'il va mettre sur le marché. Un test est réalisé, en conditions réelles maintenant, puisque ça fait enfin partie des nouveaux tests qui sont mis, c'est pas uniquement laboratoire, mais en conditions réelles. S'il ne respecte pas, il n'a pas l'homologation. Donc, appliquer les mêmes normes, les mêmes règles et les mêmes possibilités de sanctions que nous le trouvons sur le marché américain. Aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant. Les consommateurs américains ont pu se faire indemniser par Volkswagen aux États-Unis parce qu'il y a une loi qui protège les consommateurs. Eh bien, en Union européenne, il n'y a rien.
C'est votre seconde demande, donc, qui concerne les consommateurs, l'indemnisation des consommateurs floués.
C'est ça. La protection des consommateurs va faire partie des amendements qu'on dépose pour le vote en plénière mardi et pour faire en sorte que les Européens soient protégés.
Qu'ils soient protégés, donc indemnisés.
Indemnisés parce que les véhicules qu'ils ont achetés aujourd'hui et qui devaient respecter les normes, et en réalité sur un certain nombre de marques on s'est rendu compte que c'était pas le cas, ils vont avoir l'obligation de mettre en place des dispositifs, des nouveaux systèmes d'antipollution dans leurs véhicules. Ça a un coût. Et pourquoi ce coût devrait être porté, comme c'est le cas aujourd'hui, par le consommateur et pas par le constructeur? C'est ça qu'on demande. C'est la prise en charge de ce qui aurait dû être dès le départ dans le véhicule livré, ne l'est pas. Ça doit être pris en charge par le constructeur.
Bruder Herz, komm, tanz mit mir, tanz mit mir, tanz mit mir. Bruder Herz, komm, tanz mit mir.
Des armes aux larmes pour les ex-soldats allemands la ville de Munich leur propose une reconversion plutôt audacieuse, la puériculture. Explication de Pauline Curtet.
Et si les anciens soldats de l'armée allemande devenaient puériculteurs dans les crèches de Munich ? Telle est l'idée de la mairie de la capitale bavaroise, qui cible donc les militaires en reconversion dans sa nouvelle campagne de recrutement intitulée « We want you ». Que les parents se rassurent cependant, le but, promettent les défenseurs du projet, n'est pas d'élever les enfants comme à l'armée, mais plutôt de profiter des multiples avantages liés au recrutement d'anciens soldats. Car ces derniers bénéficient d'un droit à la formation de 3 ans payé par l'armée, qui s'occupe également de les nourrir et de les loger. De son côté, la ville de Munich n'a pratiquement rien à débourser. Il lui suffit simplement de convaincre les soldats que la puériculture est une formation d'avenir, pas forcément très bien payée, mais qui leur garantit un job stable et en demande. Sans compter que les employés des crèches munichoises attendent moins longtemps pour décrocher une place pour leurs propres enfants dans les établissements municipaux, un avantage de taille dans une ville où la pénurie de places en crèche est sévère. Reste qu'entre prendre soin de son arme, subir de sévères entraînements militaires et changer des couches, la différence est de taille. D'ailleurs, pour le moment, les anciens militaires restent plutôt conservateurs dans leur choix de formation et se tournent vers des professions liées à leur ancienne carrière, par exemple policiers ou douaniers. La ville de Munich parviendra-t-elle à changer cette tendance ? Réponse d'ici à quelques mois.
À l'occasion des 60 ans du traité de Rome, nous poursuivons notre série de reportages sur les villes européennes emblématiques. Aujourd'hui, Bruges en Belgique et son Collège de l'Europe niché au cœur de la vieille ville. Le collège accueille chaque année 350 étudiants post-universitaires provenant de 51 pays. Tous ont un objectif précis, atteindre les hautes sphères européennes. Parmi les anciens élèves, beaucoup y sont parvenus. Nick Clegg, ancien vice-premier ministre britannique, Joe Linen, député européen allemand, ou encore Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre danoise, ont notamment fréquenté les bancs du collège. Alors quel est le secret de cette réussite ? Alice De Batis de la RTBF a d'abord rencontré son recteur, Jörg Monard.
Bonjour madame.
Bonjour.
Bienvenue au collège. Il y a deux éléments cruciaux qui caractérisent la formule du collège. Le premier élément, c'est d'offrir un programme d'enseignement qui est très intense et qui est régulièrement mis à jour pour répondre aux défis actuels de la construction européenne. D'un côté, alors un programme qui pèse sur les étudiants, puisqu'en 9 mois, ils doivent même écrire leur mémoire de maîtrise, ce qui ajoute aux pressions, mais en même temps, d'ajouter une expérience spécifique de vivre ensemble. Et c'est pour cette raison qu'on héberge les étudiants sur le campus, d'ailleurs pas seulement ici, mais également sur notre deuxième campus à Varsovie. On pourrait dire qu'on les force même de vivre ensemble. Et cet effet combiné d'avoir un programme qui pèse lourd, qui demande beaucoup des étudiants, fait quand même un contexte d'éducation supérieure que je pense assez spécifique.
La spécificité du collège, c'est donc de proposer une formation de haut niveau axée sur la politique européenne et une vie en communauté. Cette vie en communauté permet de se confronter à différentes cultures, de créer un environnement européen. Exemple dans la cantine, c'est Héloïse, une élève française qui nous emmène.
Au deuxième semestre ici, on a chaque semaine une semaine nationale en fait. Donc il y a plusieurs pays ou un pays qui nous font découvrir leur culture. Sur le plan culinaire, culturel, musical, il y a des activités, des concerts, dégustation de vin, voilà.
No pork, it's fish.
Ici, on mange quoi ? Du bacalao ?
C'est du bacalao à Brage. C'est avec des pommes de terre, bacalao et avec des œufs. Tout mélangé.
T'as pris quelle option ici ?
Je fais des masters de droit, droit européen.
Et pourquoi tu as pris le collège ?
Le collège, parce que j'ai toujours connu le collège comme un bon endroit avec de bons environnements, environnement international pour étudier et aussi pour des portes qui peuvent s'ouvrir après le collège.
Les portes qui peuvent s'ouvrir après le collège, il y en a pas mal. Les étudiants ont différentes aspirations. Cette élève portugaise veut se dédier à une carrière diplomatique. D'autres veulent conquérir le secteur privé, notamment dans le milieu des think tanks. Et d'autres encore, comme Anna, rêvent de Bruxelles.
J'aimerais
a bien travaillé à Bruxelles, dans les institutions. Du coup, le Collège d'Europe est une préparation idéale pour ça, parce qu'il y a d'un côté des cours qui sont sur les théories européennes, mais de l'autre côté aussi une approche très pratique avec des cours. Enfin là, par exemple, je vais suivre avec un cours sur le project management. Et du coup, ça donne vraiment une idée du terrain européen.
Ouais. Alors, est-ce que toi, tu vas préparer le concours européen ?
Oui, je vais peut-être le tenter, mais il y a chaque année, donc... Pourquoi pas le tenter une fois comme en tant un peu comme touriste et après le préparer plus sérieusement, voilà.
Selon le Collège de l'Europe, 20% des étudiants travailleront pour les institutions européennes. Andras Banef en faisait partie. Il est sorti de l'école en 2002 et a notamment travaillé 3 ans à la Cour européenne de justice au Luxembourg. Cette année passée au collège a été déterminante pour sa carrière.
Au niveau de perspective, au niveau de, disons, la mentalité qu'on a appris à Bruges, à Collège d'Europe, a vraiment aidé d'élargir mes idées.
Et vous, maintenant, vous donnez carrément cours, ou en tout cas vous donnez des formations au collège, donc vous revenez aussi en tant qu'ancien pour aider les futures générations. Pour vous, c'était quelque chose d'important ?
Oui, la semaine prochaine, j'y vais pour parler un peu des concours européens, les carrières européennes, parce que je veux bien aider les étudiants actuels.
C'est là que se trouve la valeur ajoutée du collège, un réseau très étendu d'anciens liés par une année de vie commune, prêts à aider les nouveaux à entrer dans la sphère européenne.
C'est une énigme à Palerme, au milieu des ruelles défoncées du vieux centre de cette ville du sud de l'Italie. Un immeuble renferme un trésor, une pièce entièrement peinte en bleu nuit, recouverte de calligraphies arabes du sol au plafond, découverte de cette chambre des merveilles avec Cécile de Barge.
Imaginez-vous un cube, une pièce de 3,5 mètres sur 3,5, entièrement bleue des murs au plafond, de ce bleu profond qui semble sorti du décor des mille et une nuits, le tout décoré de fresques argentées et de calligraphies arabes. Nous ne sommes pas dans une capitale du Maghreb ou du Moyen-Orient, mais à Palerme, en Sicile, au cœur de l'un des quartiers du centre historique. Et cette pièce, aujourd'hui rebaptisée la Chambre des Merveilles, reste un mystère. En 2003, un couple rachète une vieille maison qui tombe en ruine. Les travaux s'éternisent et la dernière pièce tout au fond est la dernière sur la liste des rénovations prévues. Sauf qu'un des gars des eaux en décide autrement. Inquiets des éventuelles infiltrations d'eau, les propriétaires vérifient l'état des murs. Le plâtre commence à se décoller, alors ils grattent pour arriver au mur d'origine. Une couche de plâtre, puis deux, puis trois, puis quatre, et en dessous, un mur recouvert d'une peinture à l'huile bleu sombre. Ils ne s'imaginent pas alors qu'ils sont en train de découvrir la Chambre des Merveilles et ses murs bleu nuit qui sont restés cachés pendant des siècles. Les hypothèses les plus folles accompagnent cette découverte. Était-ce une mosquée ou bien une pièce attenante à des bains turcs ? Une étude de l'université de Bonn, en Allemagne, suppose que cette chambre, peinte au XIXe siècle, était utilisée pour des rites maçonniques et ésotériques, peut-être même magiques. Qui s'en servait ? Quel type de rite y était pratiqué ? La Chambre des Merveilles n'a pas encore livré tous ses secrets.
Sophie Janin a réalisé et mis en onde cette édition. Demain, dès 17h40, temps universel, vous retrouverez Catherine Roland. On reste ensemble sur RFI.fr à la page émission. A tout de suite.